L'émission spéciale que vous propose l'équipe de la rédaction française de Radio Prague en ce 21 août, soit donc 50 ans après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, se poursuit avec des témoignages de personnes qui ont vécu cette journée de l'intérieur. Magdalena Rosinkova.
Le choc de l'invasion soviétique a touché tout un pays et a laissé des traces indélébiles dans les mémoires. Au-delà des conséquences politiques, économiques et autres, l'intervention militaire en Tchécoslovaquie et la présence de l'armée soviétique dans le pays ont causé la mort de plus de 400 personnes, tandis que près de 200 000 Tchécoslovaques ont pris le chemin de l'émigration entre août 1968 et novembre 1989. L'écrasement du printemps de Prague a déterminé des trajectoires, comme nous le raconte dans cette émission les témoins de l'époque, deux comédiennes, deux ingénieurs, un diplomate, un photographe et pas n'importe lequel. Lorsque dans la nuit du 20 au 21 août 1968, les troupes du pacte de Varsovie entrent en Tchécoslovaquie, la population, alertée pendant la nuit par le bouche à oreille, se réveille progressivement à garde. Comme beaucoup d'autres, le photographe Josef Koudelka est prévenu.
Je revenais juste d'un voyage en Roumanie où je photographiais les Roms. Je suis allé dormir et au beau milieu de la nuit, vers 3 heures, le téléphone a sonné. C'était une de mes amies qui m'a dit « Les Russes sont ici ». J'ai raccroché en pensant à une blague, mais elle a rappelé 3 fois, elle m'a dit d'ouvrir les fenêtres et d'écouter. Et là, j'ai entendu le bruit régulier des avions. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai pris mes appareils photo et je suis sorti.
Les photos de Josef Koudelka passées clandestinement à l'Ouest ont fait le tour du monde après leur publication lors du premier anniversaire de l'invasion. Elles sont actuellement exposées au Palais Veletrejny à Prague. Pour Maria Pištěková, actrice, auteure et professeure d'art dramatique, l'invasion d'août 68 a été déterminante dans sa trajectoire. Dans les années de normalisation qui ont suivi, elle a monté la pièce « La dernière nuit » de Jeanne d'Arc, inspirée de celle de Georges Bernard Shaw, « Sainte-Jeanne ». L'histoire de cette toute jeune fille qui se bat pour libérer la France du joug des Anglais, jouée clandestinement dans des appartements, ne pouvait que résonner aux oreilles des Tchécoslovaques en situation d'occupation. Maria Pištěková a confié au micro de Radio Prague.
Je me souviens très bien, je n'oublie jamais. Le matin, quand je me suis réveillée, une fille, jeune fille, et maman est venue, tout tremblant, elle nous a dit... J'ai peur qu'il y ait la guerre, parce qu'il y a des chars qui sont venus à Ostrava, devant la grande mairie, la mairie principale à Ostrava, aussi devant la radio à Ostrava et partout. On était tous étonnés. Bon, on était jeunes, mais on a tout comment je peux vous expliquer, on était tous bouleversés. Et à ce moment-là, j'étais très touchée pour la suite, ce qui s'est passé. Je ne peux pas jamais oublier l'année aussi 1969, parce que c'est Jan Palach, qui s'est immolé ici à Prague, sur la place Václavské náměstí, c'est la place de San Wenceslas. Et là, j'étais touchée comme jamais. Là, tout a commencé à partir là-bas. Mmh. Et ce n'est pas seulement Jan Palach qui s'est immolé. Ensuite, c'était aussi un jeune garçon, Jan Zajíc, et les autres aussi dans des autres pays, en Pologne, etc. Mmh.
Originaire lui aussi de la Moravie du Nord, Zdeněk Binder a aujourd'hui plus de 80 ans et il vit avec sa femme tchèque dans la région de Grenoble. Jeune ingénieur enseignant à l'école supérieure des mines d'Ostrava, Zdeněk Binder a obtenu en 1967 une bourse du gouvernement français pour effectuer un travail de recherche au laboratoire d'automatique de Grenoble. Après l'occupation soviétique de la Tchécoslovaquie, il a choisi de rester en France. Zdeněk Binder a un souvenir presque anecdotique de la triste nuit du 20 au 21 août.
Nous avons passé l'été avec mon épouse en France et je suis revenu avec mon épouse. Notre fille était chez nos parents et nous sommes partis de Rimazov vers Ostrava. Et quand j'ai en voiture Skoda, et quand j'ai avancé, à un moment, je me suis retrouvé dans la route, sur la route, Et à côté, il y avait des transporteurs militaires dont je me suis dit, il y a peut-être les manœuvres
des
ou
exercices
quelque chose,
militaires.
des exercices. Et comme je ne voulais pas me placer derrière ces transporteurs parce qu'ils avançaient très lentement et ils prenaient pas mal de place sur la route, j'ai cliqué avec les faits et donc ils m'ont laissé passer. Et donc, tout en pensant que c'est des manœuvres. Et quand je suis arrivé à Ostrava, à un croisement, il y avait, à ce moment-là, ce qui m'a surpris, il y avait un soldat russe qui a dirigé tout le flux des militaires. J'ai garé la voiture pas très loin de ma maison et sur la place. J'ai vu un policier tchèque et je me suis rapproché. J'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il arrive? Et il m'a dit, oh, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il faut que je me cache quelque part.
Karel Kubeštál, lui aussi ingénieur, a émigré en France en 1979 à l'âge de 23 ans. En août 1968, il n'avait que 11 ans, mais l'événement est resté gravé dans sa mémoire.
Le 21 août, en fait, avec ma mère, donc, on était à la maison de campagne, donc la nuit on dormait. Hein. Et au petit matin, on attendait la voisine qui criait réveillez-vous, réveillez-vous, c'est la guerre. Les Russes nous ont envahis, etc. Et puis donc effectivement, on s'était levé. Donc c'est comme ça qu'on a appris effectivement l'invasion. C'était à la maison de campagne juste à côté de Prague, donc à une douzaine de kilomètres quoi au sud. On attendait déjà le vrombissement donc des Antonov qui survolaient le pays. Mais comme la maison de campagne était située à un endroit relativement isolé. Les premiers soldats qu'on a vus, c'était beaucoup plus tard, quoi. C'était quelques jours même après. Et puis c'était effectivement uniquement un détachement, je dirais, d'une voiture légère. C'était pas comme dans la capitale où on voyait effectivement des chars.
Ce n'est que fin août que Karel Kubeštál et sa mère rentrent à Prague pour la rentrée scolaire qui approche. Ce qui s'offre à eux dans les rues de Prague est un spectacle de désolation. Bâtiments criblés de balles, rues encombrées de gravats, vitres brisées. Le quartier autour de la radio tchécoslovaque est particulièrement touché car c'est un des endroits stratégiques majeurs où se sont immédiatement dirigés les chars.
Comme on habitait effectivement non loin de la radio, ben, on voyait effectivement, en passant par le tram, un immeuble qui était situé juste en face de la radio, qui était complètement brûlé, hein, donc il a pris feu. Hein. Et puis quand on est arrivé effectivement à la maison, donc l'immeuble était, ou est toujours situé en face d'un parc, hein, donc Rigorovi Sady, hein, donc que tout le monde connaît. En fait, le chemin donc d'Rigorovi Sady monte vers l'ancienne, on pourrait appeler ça une salle de sport, enfin un complexe sportif. Hein. Et si on sortait effectivement, on sortait même pas hein, parce que c'était trop dangereux, sur le balcon qui donnait effectivement sur le parc, et ben on voyait carrément les chars, quoi, les blindés qui stationnaient à la queue leu-leu. Hein.
Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míněná rada. Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša.
Věra Mrázková avait 24 ans en 1968. Comédienne, elle a connu l'ambiance des théâtres pragois dans les années 60, notamment celle de Divadlo na Zábradlí où Václav Havel venait de commencer sa carrière de dramaturge. Mais c'est au théâtre de Most, une ville située à quelques 150 km au nord-ouest de Prague, près de la frontière tchéco-allemande, que Věra Mrázková a effectué sa carrière de comédienne. C'est également à Most qu'elle a vécu le 21 août 1968.
J'avais un bébé de 3 mois et mon souci principal a été d'acheter suffisamment de lait en poudre car on ne savait pas comment la situation allait évoluer. Mon mari et mes collègues m'ont dit avoir vu des chars en ville et des soldats soviétiques originaires des pays baltes. Il paraît qu'ils avaient plutôt l'air de s'ennuyer, qu'ils fumaient car il n'y avait rien à faire. Ici, les gens avaient peur et ne sont pas intervenus contre l'occupant.
Août 1968 a aussi été pour beaucoup le signal qu'il fallait partir, changer de vie, aller vivre là où l'on échapperait aux tracasseries d'un régime répressif. On estime à environ 100 000 le nombre de Tchécoslovaques ayant quitté leur pays entre 1968 et la fin de l'année 1969. De nombreuses figures de l'intelligentsia, scientifiques, enseignants et autres, prirent le chemin de l'exil vers des horizons divers dans le monde. D'autres qui entamaient seulement leur vie d'adulte choisirent aussi de quitter un pays sans avenir. Ce fut le cas de Michal Wittmann, ancien consul honoraire de la République tchèque au Luxembourg, qui se souvient venu de ses sentiments à l'époque.
Eh bien, c'était très simple. J'ai eu mon baccalauréat en poche. On est parti en vacances. En retournant, on s'est rendu compte que nos amis soviétiques sont venus nous dire bonjour en tant que touristes, mais avec les Kalachnikov et les chars d'assaut, ce qui était un peu étonnant. J'ai pas trop apprécié. Ma famille ayant les racines démocratiques. L'un de nos oncles était dans la résistance contre les nazis. Les communistes ont enfermé mon père. Il a écopé un an et demi de prison parce qu'il a publié un livre qui relatait la libération de la ville de Pilsen par les troupes de General Patton. Et là-dessus, je me suis dit, toute la politique change tous les 20 ans avec les nouvelles générations. Qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai compris ce que c'était le communisme, surtout les années 50, avec les exécutions, persécutions, état de problèmes que nous connaissons. Et puis, moi, simplement, le 22 décembre, je suis parti à Paris. Alors, à l'époque, on ne pouvait pas échanger librement les devises. Donc, j'ai eu le droit à 25 francs français et ma mère m'a donné 16 dollars. Je suis parti à Paris, j'avais une amie, mon amour du lycée. Elle m'a accueilli dans une chambre de bonne au 7e étage, ce qui représentait un super fitness, surtout quand on oublie quelque chose. Les toilettes, évidemment, étaient sur le couloir. Et au bout de 3 mois, j'ai perdu 17 kilos. Il n'y avait pas grand-chose à Paris. La belle ville de Paris, ou la belle France, ne m'a pas accueilli avec le ciel bleu et la belle colombe de Paul Éluard. Au contraire, il pleuvait, j'avais un trou dans ma chaussure. Donc Paris était plutôt grise, désagréable et hostile. Heureusement qu'on a rencontré une famille magnifique, la famille de Thérèse Tissot, qui avait elle-même déjà 3 garçons. Elle n'a pas hésité à nous adopter pratiquement. Et grâce à mes faibles connaissances d'allemand, j'étais supposé donner les cours d'allemand à son fils, ce qui m'a valu 2 repas chauds par semaine. Mais finalement, j'ai appris un peu le français, mais le fils ne parle pas toujours l'allemand.
Le remplacement d'Alexander Dubček par Gustav Husák en avril 1969 signe définitivement la fin du socialisme à visage humain, même si pour beaucoup la mort de Jan Palach au début de l'année est le coup de grâce, le signe que tout espoir est définitivement impossible. Gustav Husák deviendra le symbole d'une longue période appelée « normalisation » dans le jargon de l'époque, une normalisation qui commence au travail, comme le rappelle Karel Kubešta.
Je dirais ensuite, ce qui était terrible, c'est plutôt pour nos parents, quoi, parce que surtout les fonctionnaires, hein, ma mère en était une, quoi, hein, et ben, c'était un peu l'époque des, ensuite, un peu plus tard, hein, quand Husák a pris le pouvoir, ou quand il était désigné plutôt par l'Union soviétique, eh ben, c'était un peu des purges où il fallait effectivement, c'était pas vraiment des purges parce que en fait il fallait signer un document comme quoi vous êtes d'accord avec l'invasion, que c'était pas une invasion, c'était une aide fraternelle, etc. Et celui qui ne l'a pas signé, il fallait effectivement qu'il ait une bonne raison pour ne pas la signer. Et ma mère l'a jamais signé parce qu'elle a trouvé une, entre guillemets, une parade. Elle a dit, écoutez, moi j'ai pas envie d'en parler, j'ai perdu mon mari le mois avant, je suis en fait en deuil, etc. Tout ça, j'ai pas du tout la tête pour ça. Donc ne m'embêtez pas avec ça. Et puis ça a passé. Donc elle n'a jamais signé, je dirais, un document où effectivement où elle approuve l'occupation par l'Union soviétique, enfin par l'armée.
Pour beaucoup de Tchèques, le fait de s'opposer publiquement à l'invasion du pays par les troupes du pacte de Varsovie a eu des conséquences fatales. La comédienne Věra Mrázková se souvient.
Ty prověrky začaly hned v září. Náš kolega Jirka Havlík.
Dès le mois de septembre, tous les employés du théâtre devaient passer devant une commission et approuver l'occupation russe. L'un de nos collègues ne l'a pas fait et a continué à défendre la liberté d'expression. Il a été persécuté et il est mort prématurément. Ses enfants n'ont même pas été admis au lycée professionnel. Pareil pour un ami proche de mon mari. Il était commandant de l'aéroport de Milovice en Bohême centrale. Il n'a pas donné son accord pour l'atterrissage des avions russes à cet aéroport le 21 août. Et lui aussi l'a payé très cher. Il a été démis de toutes ses fonctions.
La puissance militaire envoyée par Moscou dans l'ancienne Tchécoslovaquie était immense, jusqu'à 750 000 soldats selon certaines sources. Présentée comme une aide fraternelle apportée au peuple tchécoslovaque, l'occupation soviétique n'a pris fin qu'en 1991 avec le départ des dernières troupes soviétiques du pays.
Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej. Ivan byl původně moc hodnej hoch.